Vous écoutez Logosphère, l'émission de reportages et d'entretiens, de rencontres et de réflexions. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est Logosphère sur les ondes d'univers. Patricia Alliot.
Ouais.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes performeuse, comédienne, et vous avez donné un spectacle qui s'intitule Autoportrait de ma grand-mère. Autoportrait à ma grand-mère, pardon, au Théâtre de Poche à Aidé. Un spectacle dans lequel vous lisez une lettre, c'est une adresse à votre grand-mère défunte, ponctuée d'enregistrements sonores dans lesquels on vous entend converser avec elle, échanger, notamment en breton, entre autres. Vous dressez un portrait de cette grand-mère, de votre grand-mère, dans lequel on retrouve un certain nombre de traits, de profils, de vécus que l'on a pu connaître chez nos anciens. Alors j'utilise le terme ancien parce que vous-même, vous l'utilisez. Et tout simplement, est-ce que vous pourriez nous parler de ce qui a initié ce spectacle, cette adresse, justement ?
Merci pour cette invitation à ce dialogue, à prolonger le dialogue. Effectivement, je sors de représentation, donc c'est toujours très émouvant de partager ce travail intime, qui est intime mais aussi politique, hein, mais quand même très intime, avec un nouveau public. Et bientôt, ça sera l'anniversaire de ma grand-mère, dans quelques jours. Donc à chaque fois, sa présence est reconvoquée, et je me dis qu'effectivement, ce projet a une longue histoire. D'abord, tout simplement, je le dis d'ailleurs parfois, hein, je ne pensais pas faire un spectacle. J'avais envie d'écrire autour de ma grand-mère. C'était un peu flou. Je crois que j'avais envie d'écrire peut-être sur les liens entre ma grand-mère et moi. Parce que que je suis adolescente, je suis une personne dans la famille qui pose des questions à ma grand-mère, qui s'intéresse à elle. Non pas que je sois la seule à m'être intéressée à elle, mais je sais qu'on avait un lien assez intime. Et elle avait une grande confiance en moi, donc j'avais envie de prolonger ce dialogue, peut-être à travers l'écriture. Ensuite, peu à peu, j'ai commencé à travailler l'écriture de ce texte, au fil des années, pendant des années en fait. Parce que je pense que j'ai commencé à écrire ce texte, on est en 2022, je pense que j'ai commencé à écrire ce texte en 2010, de son vivant. Et j'avais envie d'une écriture du réel, une écriture documentaire. Je trouvais que la mémoire de ma grand-mère était précieuse, qu'elle incarnait en quelque sorte une femme du peuple bretonne qui peut-être, dont le profil allait peut-être se perdre. Hein. C'est-à-dire cet endroit comme ça de la lutte, de la résistance. Pas la résistance au sens de la résistance dans la Seconde Guerre mondiale. Hein, c'est pas une héroïne politique. Ma grand-mère, c'est quelqu'un finalement d'assez ordinaire qui a pas fait des choses héroïques, mais en revanche, qui a toujours résisté à travers ses engagements auprès de ses enfants, de son travail, à vivre seule la plupart du temps, à élever des enfants de la DAS, à être ouvrière agricole. Donc finalement, pour moi, c'était aussi une manière de rendre hommage à cet endroit de résistance, de bataille, quoi, pour être autonome, pour être une personne comme ça qui traverse la pauvreté sans forcément sombrer, on va dire, dans le misérabilisme. C'est pas parce qu'on est pauvre, comme elle a été, qu'il n'y a pas la fierté, il n'y a pas la complexité humaine, et au contraire.
Alors justement, cette personne qui était votre grand-mère était une femme bretonne de Malguenac, si oui. Je ne me trompe pas, qui habitait à Malguenac, qui avait gardé les vaches dans les champs, c'est-à-dire c'est une condition difficile, dure. Ouais. Voilà, c'est aussi, dans ce spectacle, il y avait l'idée de représenter une personne qui, ou des personnes qui sont invisibles, ou qui étaient invisibles?
Oui, c'est-à-dire que, genre, invisible peut-être que, invisible dans certains endroits, parce qu'en effet...
Invisible, oui, dans les médias.
Dans les médias, dans les milieux culturels parfois, parce que comme ce que je viens de dire, ma grand-mère n'est pas une héroïne. On peut dire que toutes nos grand-mères, ce sont nos héroïnes quand on est enfant, d'une certaine façon. Mais en effet, je trouvais ça précieux d'ouvrir un espace. Donc là, l'espace dont je parle, c'est celui de la scène. Parce que quand j'écrivais, c'était pas encore un espace. C'était un espace d'écriture, mais où sa voix ne résonnait pas. La scène théâtrale, c'est un endroit très privilégié pour faire entendre un propos, pour faire entendre une voix. Et d'un coup, je me suis dit que faire cohabiter la voix de ma grand-mère avec cet accent du pays Pourlette, parce que, bah, comme vous l'avez dit, elle venait de Malguenac, de tout le pays de Pontivy, en fait, et elle avait cet accent du pays Pourlette où on roule les airs, et elle était allée que 2 ans à l'école, mais elle était très fière d'avoir appris à lire, à écrire, à compter, comme elle disait. Et puis, les dernières années de sa vie, elle passait son temps à emprunter des livres à la médiathèque. Donc, on va dire, malgré ces 2 ans, ces 2 uniques années, elle était fière d'avoir acquis la capacité à lire la langue française. Mais effectivement, néanmoins, elle continuait à parler breton avec ses voisins, avec sa sœur. Et je me disais que c'est toute cette mémoire enfouie dans nos plus jeunes générations, je dis enfouie parce que soit on a été élevé à l'école Diwan et on est élevé, éduqué dans une conscience de tout ça, soit c'est quelque chose qui peut passer complètement à côté. C'est-à-dire qu'une partie de l'identité bretonne, c'est une langue et c'est plusieurs formes qu'a pris cette langue bretonne. Et que peut-être cette langue, cet usage, bah, c'est un usage singulier au paysage, au travail, à l'accentuation, à l'humour. Et moi, c'est quelque chose que j'ai très peu approché parce que je ne parlais pas breton. Donc ça a été une manière pour moi d'interroger notre différence, notre singularité, ce qu'elle m'avait légué. Et du coup, en effet, quand j'ai décidé de faire cette performance sur scène, très vite, pour moi, c'était évident que ça allait être un endroit où j'allais faire entendre sa voix. Notre intimité, mais aussi...
Alors, l'intimité, justement, parce qu'on entend votre grand-mère, justement, discuter. Vous discutez notamment en breton. Enfin, vous essayez d'échanger, d'apprendre le breton. Enfin, quelques petits mots. Justement, ces moments-là de collecte, on est en radio, là.
Ouais.
Voilà. Comment se faisait-il et à quelle occasion
dans le spectacle. C'est marrant parce que... Enfin, c'est pas marrant, c'est intéressant. Vous parlez de collecte. J'ai envie de mentionner ça pour les auditrices et les auditeurs qui auraient envie d'entendre plus Julienne Le Breton. Elle a, quand elle était plus jeune, parce que moi, les enregistrements que je fais entendre, elle est déjà très, très âgée, hein. Elle a pas loin de 90 ans, donc elle est dans un usage assez fragmentaire de la langue bretonne. Puis surtout, avec moi qui ne la parle pas, je bredouille. Mais néanmoins, les spectatrices et spectateurs peuvent bien entendre qu'elle me corrige. Donc elle a beau être très âgée, elle a encore en mémoire très précisément comment on dit les choses. Mais à Radio Brodjenet, elle a eu une interview de plus d'une heure quand elle était plus jeune. Et donc, s'il y a des auditrices ou des auditeurs bretons ou bretonnes, ou bretonnantes plutôt, c'est très intéressant parce que là, moi, j'ai découvert un autre aspect de ma grand-mère en l'écoutant. C'est-à-dire que là, elle a un breton très fluide, une voix beaucoup plus juvénile. Alors que moi, ce qui m'intéressait, hein, c'était pas de faire... une interview France Culture, je sais pas quoi, je faisais pas un documentaire sur ma grand-mère. Ce qui m'intéressait, c'est de restituer l'intimité, le caractère poétique, ordinaire d'une conversation que l'on a dans la vie en se promenant. Donc par exemple, on se promenait sur le canal de Nantes à Brest, hop, je déclenchais mon téléphone. J'étais dans la voiture parce que elle aimait bien faire des tours de voiture quand elle était à la maison de retraite, j'allais la chercher. Hop, on s'embarquait, je déclenchais le téléphone ou un truc pour enregistrer dans la voiture. Alors des fois, elle ne savait pas. Des fois, elle savait. Et puis, de toute façon, je ne lui volais pas son intimité parce qu'elle était au courant que j'écrivais sur elle. Ça lui faisait plaisir. Et j'étais toujours dans une optique plutôt de respect, de m'approcher d'elle avec délicatesse plutôt que d'aller repêcher des informations secrètes. Donc voilà, c'est plutôt une tonalité d'intimité, de promenade, de petits moments poétiques de la vie. Et pour moi, qui sont incroyablement précieux aujourd'hui, parce que dans le chapitre qui s'intitule « La maison du bonheur », c'est incroyable parce que d'un coup, c'est un moment de confidence qui est remonté à la surface où elle me dit c'est comme ça que j'appelais ma maison, c'était la maison du bonheur, et d'un coup, c'est un moment de grâce, quoi. Elle me dit malgré la dureté de l'existence, cette maison pour moi, cette vie-là, ça a été aussi du bonheur et elle est capable de philosopher sur son existence.
Alors justement, de philosopher, vous ponctuez ce spectacle de réflexions philosophiques aussi. Je crois qu'il y a aussi de votre côté un parcours en philosophie. Et vous faites intervenir justement des auteurs, notamment. À la mémoire, il y a Roland Barthes qui intervient, ouais. Mais il y a différents auteurs, ouais, qui interviennent pour élargir ce récit qui est singulier, qui est personnel aussi. Comment justement vous envisagez-vous les spectacles comme aussi une sorte de parcours philosophique de méditation ?
Oui, tout à fait. C'est vrai que moi, je suis venue à l'écriture et au théâtre après un parcours de philosophie. J'ai enseigné la philosophie à Avranches, même d'ailleurs, pas très loin d'ici, à Lannion, à Rennes. Et donc, c'est quelque chose qui reste précieux pour moi, c'est la dimension réflexive, analytique, pas du tout au sens de faire un cours de philosophie, mais de montrer comment nos identités, elles sont construites et fabriquées par toutes sortes de références. C'est-à-dire, parler avec quelqu'un, parler de quelqu'un, parler de nos expériences, ça peut être à travers un livre qui nous a marqué, à travers une rencontre avec une conversation qui nous a fait prendre conscience de quelque chose. Et moi, quand je parle par exemple de Roland Barthes, c'est dans l'idée que c'est accessible à tout le monde. À quel moment j'en parle, c'est pour dire la distinction du pauvre et du prolétaire, c'est en lisant Mythologie de Roland Barthes sur Charlot et Charlie Chaplin. Et pour moi, c'est montrer qu'il y a des liens entre la culture populaire et la culture dite élitiste. Qu'en fait, c'est pas vrai. Tout le monde peut faire de la philosophie. Moi, j'ai toujours défendu ça. J'étais pour qu'il y ait de la philosophie dans les écoles primaires, parce que je pense qu'on peut amener à de la réflexion n'importe qui, parce qu'en fait, même les enfants, avant même qu'ils aient des cours, ils sont en train de théoriser sur le temps, l'espace, l'éternité. Enfin, il y a quand même un rapport à la question et au fait de chercher du sens. Et donc pour moi, effectivement, l'écriture, c'est pas simplement je raconte ma vie, je décris les choses telles que je les ai vues. C'est un aller-retour critique, analytique, inquiet. Ce qui m'intéresse, c'est de chercher mes contradictions politique, c'est pas juste de dire ma grand-mère elle avait honte, et moi alors, est-ce que j'ai pas honte aussi? En fait, est-ce qu'elle m'a pas transmis une partie de sa honte? Par exemple, la honte de la langue bretonne, la honte de l'accent, la honte de tes origines sociales. Est-ce que moi finalement j'ai pas voulu échapper à ça? Est-ce que finalement en faisant ce spectacle, en écrivant, c'est pas une manière de me libérer et de renouer avec un rapport plus assumé à ses origines. Donc ce sont des allées et venues. La philosophie, peut-être tout simplement, ou les auteurs, ou les références, il n'y en a pas énormément, elles m'aident à prendre du recul et à prendre appui sur des concepts partageables, je pense, parce que le pauvre et le prolétaire, Bon, même si on ne sait pas tous et toutes exactement la différence, n'empêche, on a un peu tous et toutes entendu ces termes. Et donc, c'est une culture politique commune, et c'est se dire, mais où en sommes-nous ? Où en suis-je, moi, de mon rapport politique au monde ? Quand je dis que ma grand-mère, elle n'avait aucun rapport politique au monde, déjà, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que je ne me trompe pas ? Est-ce que j'en suis sûre ? Et puis, qu'est-ce qu'elle m'a transmis de ça ? Où j'en suis, moi ? Donc, c'est plutôt une manière de faire des allées et venues et d'introduire, peut-être c'est là-dessus que je pourrais terminer sur le lien à la philosophie et à ce spectacle, c'est introduire le doute. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a passionnée dans la philosophie, c'est le doute. C'est qu'en fait, on s'interroge sur des choses ordinaires. Voilà. Et après, on oublie, parce que la philosophie, ça peut être très chiant, très pontifiant, très ésotérique. Donc, on oublie que c'est ça à la base. Mais à la base, c'est se dire comment c'est possible de percevoir ce que l'on perçoit. Comment c'est possible de parler la langue que je parle. C'est des questions aussi très simples, fondamentales. Et moi, mêler ça avec ma grand-mère, ben, ça m'aide à la comprendre, à me poser des questions sur d'où on vient, est-ce que je l'ai vraiment comprise, est-ce qu'elle n'est pas en train de parler à travers moi, et aujourd'hui j'ai la réponse, elle parle à travers moi, parce que je l'écoute tellement sur scène que maintenant ces expressions, elles me reviennent dans la vie au quotidien.
Alors la philosophie, c'est aussi apprendre à appréhender la mort, et d'une certaine manière à travers le spectacle que vous faites. Il y a cette réflexion sur l'absence et la voix étant le... Est-ce que vous pourriez nous parler justement de tout ce développement que vous faites autour de la voix, de la présence, de l'absence liée à la mort d'une personne ?
Oui, parce que c'est vrai qu'on a coutume de parler de la mort comme une absence, et ce qui est vrai, c'est bien l'endroit du chagrin et de l'extrême violence de la mort, c'est la séparation, et la séparation en tout cas physique. La voix, je le dis dans le spectacle, c'est une éternelle présence. C'est pas pareil d'avoir à ses côtés des personnes mortes qu'on a enregistrées, ou des personnes qui ont fait de la radio. D'ailleurs, il y a un livre là-dessus, je crois que ça s'appelle « Voix sombre d'une japonaise » qui distingue entre les personnes mortes qui étaient liées à la radio et les autres. Parce qu'en fait, effectivement, la voix, ça donne une éternelle présence. Et ma grand-mère, effectivement, je développe l'idée qu'à travers ce tissage mémoriel d'enregistrement, d'écriture, en dialogue avec elle, c'est une manière de réinventer une vie par-delà la mort. Et sans dévoiler tout le spectacle, c'est quand même quelque chose dont je parle aussi, c'est ce qu'elle m'a légué après la mort. C'est aussi quelque chose d'un lien philosophique que l'on partageait sur la joie et la gaieté. Et je crois qu'on l'entend dans la voix. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui rit beaucoup. Et je me suis souvenue de ça, que quand elle était à l'EHPAD, évidemment que c'est terrifiant de vieillir et d'appréhender nos dernières années de vie et de voir les personnes qu'on aime partir. Néanmoins, je me suis souvenue qu'elle riait aussi beaucoup, qu'elle avait cette joie et cette gaieté dont elle parle. Et peut-être qu'on a une vision trop étroite de ce que c'est que le deuil et la mort, puisqu'on croit toujours qu'il faut apprendre à se séparer, à accepter la mort. Alors qu'en fait, je crois que non, les morts, ce sont avant tout des vivantes qui continuent à vivre dans nos vies, dans nos voix, comme je disais. Moi, il y a la voix de ma grand-mère qui s'est incorporée en moi, donc j'ai même des accents de ma grand-mère. Et donc finalement, je pense que la vie et la mort, c'est une dialectique plus complexe, qu'on oppose toujours la vie et la mort, alors qu'il y a la vie par-delà la mort, la vie qui continue à travers les êtres aimés, le fait que des personnes se soient exprimées à un moment donné. Il y a une phrase qui nous revient de quelqu'un qu'on a aimé, et en fait on vit avec cette phrase, et pour moi c'est pas qu'une phrase, c'est cette personne, c'est un état ou un mode de vie autre que cet état de vie que la personne avait avant.
Eh bien, merci, Patricia Alliot, ouais, pour cet entretien autour de votre spectacle.
Merci à vous,
Mathieu. Hommage, hommage autoportrait à ma grand-mère. Merci.
Mais c'est aussi un hommage.
The white thunder turning to consolation, the crying shower turning to purification. You flowing through me, streaming down on my skin. Dance through this hell. One round, two rounds and three rounds, and on, don't stop until you feel like
Thank you.